Dans les domaines du vivant, elles font figure de grands chefs d'orchestre et sont dotées de pouvoirs extraordinaires. Elles sont absolument indispensables à la vie et chez nous les humains, elles décident de notre sexe, régulent notre appétit, conditionnent nos humeurs et assurent par exemple notre fertilité. Le dossier de la tête au carré s'intéresse donc cet après-midi aux hormones, ces molécules invisibles pour comprendre comment fonctionne notre système endocrinien et quel rôle il joue au quotidien. Émission en partenariat avec le magazine La Vie et j'attends toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, des fourmis qui se font la guerre. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Étudier les affrontements des fourmis les plus agressives du monde pour anticiper l'arrivée d'espèces invasives, c'est la mission du projet Invacost. Compte rendu des batailles dans un instant à la une de la science.
Et bien voilà pour le sommaire de cette nouvelle tête au carré réalisée par Céline Hilla et préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Avec donc un dossier dans quelques minutes sur le pouvoir des hormones, mes invités, les neurobiologistes Olivier Bossler et Bernard Sablonnière, et puis Elisabeth Marchal pour l'hebdomadaire La Vie. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Olivier Bossler, est-ce que l'on peut comparer nos hormones à de petites horloges dont quand même le tic-tac ne serait pas tout à fait régulier ?
Oui, alors nos hormones qui sont sécrétées par des glandes endocrines, effectivement, ne sont pas sécrétées de manière continue, de manière tout à fait égale.
C'est pas le
coucou
suisse, hein ?
Tout au long de la journée, voire tout au long de l'année. Et donc, elles sont sécrétées par des glandes qui elles-mêmes sont des petites horloges et qui vont conditionner justement ces sécrétions rythmiques.
Voilà, mécanique de précision qu'on va décrire avec vous dans quelques minutes. Bernard Sablonnière, est-ce que nous devons tous nos états émotifs à ces hormones ?
Bien sûr que non, le cerveau a ses propres règles, ses propres lois, mais il y a dans le cerveau des clés chimiques que l'on peut comparer à des hormones qui agissent uniquement dans cet organe. Mais on verra avec surprise que le cerveau peut se faire intimider aussi par des hormones périphériques et par l'effet modulateur, je dirais, des hormones sexuelles.
Elisabeth Marchal, les hormones féminines accompagnent aussi les moments clés de la vie des femmes, hein ?
Absolument, disons qu'on est particulièrement bien placé pour en parler. Ça commence, tout à fait, déjà dans le ventre de la maman. Hein, la différenciation des sexes hommes-femmes se fait déjà là. Puis après, les hormones sont un petit peu silencieuses jusqu'à la puberté. Et puis, c'est le syndrome prémenstruel, la grossesse, la ménopause. Bref, c'est vrai que le corps et la vie des femmes, c'est une série de transformations hormonales.
Voilà,
on peut le dire comme ça.
Symphonie hormonale avec vous. On va se retrouver dans quelques minutes pour en parler avec les messages des auditeurs. Et c'est la guerre entre les fourmis aujourd'hui à la une de la science.
Un soldat sait que la vie d'une fourmi en tant qu'individu ne compte pas. Ce qui compte, c'est la colonie. Le soldat veut vivre pour la colonie, se battre pour la colonie, mourir pour la colonie. Je suis fier de vous envoyer au combat.
Au combat ? Au combat ?
Rompez les rangs. À gauche, gauche ! En avant ! Marche !
Voilà, extrait du film animé Fourmis, car les fourmis sont bien des guerrières. Et pour nous le prouver, Franck Courchon est avec nous au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été coordinateur de combat entre fourmis dans votre laboratoire écologie systématique et évolution. C'est à l'université Paris-Sud où quatre espèces parmi les plus redoutables au monde se sont affrontées sous votre baguette pendant 42 jours dans le cadre donc de votre étude Invacost. Duel rapproché, donc grande bataille. Pourquoi d'abord avoir décidé d'organiser ces tournois myrmicologiques ? C'est le mot savant pour parler des fourmis.
Oui, alors ces combats ont été organisés pour essayer de prédire ce qui risquait de se passer dans le futur lorsque ces fourmis se rencontreraient de manière naturelle. En fait, on étudie uniquement des fourmis qui sont envahissantes, qui sont donc introduites dans des écosystèmes autres que là d'où elles viennent et qui posent des gros problèmes au niveau écologique. Et avec le changement climatique, nos modèles montrent qu'ils risquent d'arriver notamment en France parce que le climat va se réchauffer et que les hivers seront plus doux et que ces fourmis exotiques auront moins de mal à s'implanter. Et donc on estime que ces modèles montrent que plusieurs espèces de fourmis envahissantes parmi les pires au monde pourraient arriver aux mêmes endroits et donc pour pouvoir lutter contre ces espèces, il nous faut savoir laquelle risque de supplanter les autres. Laquelle risque d'être déterminante à la fin et de rester pour pouvoir savoir qui on doit attendre où et contre qui on doit lutter.
Ouh, ça fait peur ça, Axel Villard.
Il est temps de nous présenter les quatre concurrentes alors quelles étaient ces quatre espèces de fourmis.
Alors, on avait une fourmi qui s'appelle la fourmi des jardins, qui vient d'Asie mineure, qui n'est pas une fourmi qui a un nom terrible, mais qui est elle-même terrible. Mmh. La fourmi d'Argentine, qui est déjà un petit peu partout dans le sud de la France et qui est un petit peu partout dans le monde aussi, qui vient, comme son nom l'indique, d'Amérique du Sud. Une autre fourmi qui vient d'Amérique du Sud, c'est la fourmi électrique, qui est une toute petite fourmi, mais qui a une piqûre très très puissante, d'où son nom. Et la dernière fourmi, elle vient d'Afrique, elle s'appelle la fourmi à grosse tête.
Et comment faire quand on met ces fourmis l'une face à l'autre, enfin colonie face à colonie, pour être sûr qu'elles s'affrontent ?
Alors en fait, justement, nous on voulait pas être sûr qu'elles s'affrontent, c'est-à-dire que on voulait leur donner la possibilité de s'éviter si elles voulaient s'éviter. Donc on les a mis dans des colonies qui étaient dans des nids qui étaient reliés à des grandes aires grandes par rapport à leur taille où elles pouvaient trouver de la nourriture, se cacher, trouver à boire, etc. Et ces grandes aires étaient reliées à l'autre grande aire d'autres espèces. Donc il y avait tout à fait la possibilité pour ces fourmis de rester dans leur nid ou de rester dans leur propre aire et pas d'aller combattre.
Alors comment se sont déroulées vos expériences, Franck Courchamp, exactement, et ces combats donc impitoyables entre fourmis?
Alors d'abord, on a acclimaté les fourmis à leur nid et à leur aire qu'on appelle une aire de fourragement, c'est-à-dire l'aire où ils cherchent de la nourriture. On les a acclimatées pendant un certain temps pour être sûr qu'elles ne seraient pas stressées, parce que souvent elles peuvent être plus agressives lorsqu'elles sont stressées. Et après un certain temps, on a juste ouvert un tube qui reliait les deux aires de fourragement des deux espèces qui étaient mises l'une contre l'autre. Alors en fait, quand on a les quatre espèces, ça veut dire qu'on avait six interactions possibles. Donc on avait à chaque fois des dispositifs pour six couples d'espèces de fourmis.
Des duels en quelque sorte.
Voilà, des duels, mais pas des duels de fourmis contre fourmis, mais de colonies de fourmis contre colonies de fourmis.
Alors qu'est-ce qui se passe quand on met ces fourmis les unes en face des autres? Elles se mettent tout de suite dessus? Qu'est-ce qui se passe alors?
Alors ces fourmis sont très très agressives, chacune de ces espèces. Donc on a choisi en fait ces espèces parmi les plus agressives, parmi les espèces envahissantes au monde. Et c'est également ces quatre-là, des fourmis qu'on avait déterminées comme étant potentiellement envahissantes en France dans le futur proche. Et comme elles sont très très agressives chacune, et qu'en général elles éliminent totalement toutes les espèces natives de fourmis et d'autres insectes, on se demandait effectivement si elles allaient être agressives entre elles. Elles l'ont été. Dans les quelques heures qui suivent, en fait, on a un déclin systématique des colonies très très rapidement, parce qu'il y a des combats qui sont très rapides. Et on a fait nos études pendant une quarantaine de jours, pendant 43 jours, et on a compté tous les jours. Alors je dis on, mais en fait c'était l'étude d'une personne qui faisait une thèse dans notre labo, Cléo Bertelsmeyer, qui a fait une grosse partie de sa thèse sur ses études et qui comptait donc tous les jours le nombre de fourmis survivantes et mortes dans chacune des interactions. Et donc on voyait que les fourmis déclinent très très rapidement au départ. Il s'agit vraiment d'une combats très très intense et très très féroce tout au départ. Les colonies diminuent très rapidement, et une fois qu'elles ont diminué, après pendant plusieurs jours elles diminuent de manière plus modérée, jusqu'à ce que la plupart du temps une des deux colonies disparaisse.
Est-ce qu'il y a une grande gagnante parmi ces quatre espèces?
Alors oui, la grande gagnante, c'est la plus petite des quatre fourmis, c'est la fourmi électrique.
Ah tiens. Et pourquoi alors exactement? Quels sont ces avantages de guerrière?
Alors en fait, il y a deux fourmis qui étaient... C'est la grande gagnante, et la deuxième grande gagnante, la numéro 2, c'est l'asiatique, la fourmi des jardins. Et ces deux-là avaient deux particularités par rapport aux deux autres. Elles étaient un petit peu moins agressives que les deux autres. Elles étaient plus défensives que attaquante, et dans ce type de combat, c'est vrai que l'attaquant il a un désavantage par rapport à celui qui défend son nid. L'autre particularité était que c'était deux espèces qui utilisent les armes chimiques par rapport aux deux autres qui sont plus des armes physiques, donc qui se mordent et qui se découpent. Alors on ne sait pas exactement lequel de ces avantages a joué, ou si c'était un autre avantage, mais en tout cas c'est une particularité que les deux gagnantes ont par rapport aux deux autres.
D'accord, ça se découpe, hein, c'est ce que vous avez dit, Franck Courchamp, des fourmis en train de se battre.
Oui, oui. Alors, par exemple, la fourmi à grosse tête, 10% de ses ouvrières sont des soldats, donc ils ont une très très grosse tête et avec des mâchoires très puissantes. Et effectivement, ils peuvent se couper en deux de manière assez facile.
C'est donc de ces deux petites fourmis qu'il va falloir se méfier pour des invasions sur notre territoire.
Alors, je pense qu'il va falloir se méfier de toutes les espèces envahissantes, mais lorsque l'on a deux espèces envahissantes qui arrivent ensemble, il semble que, en tout cas pour ces quatre-là, c'est la fourmi électrique qui gagne. Maintenant, on a fait dans un deuxième temps une expérience supplémentaire qui consistait à relier des colonies des quatre espèces en même temps. Et lorsqu'on a les quatre espèces en même temps, on a des résultats qui sont un petit peu différents que lorsque l'on regarde les espèces deux à deux.
Bon, en tout cas, on n'est pas pressé de les voir arriver, parce que je sais que dans des pays comme la Nouvelle-Calédonie, la fourmi électrique pose de vrais problèmes, hein, sanitaires en particulier, et vos recherches, en tout cas, permettraient peut-être de prévenir ces invasions d'espèces. Merci beaucoup, Franck Courchamp, pour ces détails sur les combats guerriers des fourmis. Et Axel, à demain
Mathieu,
pour la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois, des chercheurs ont réussi à filmer la propagation d'ondes de chaleur dans la matière. Le cliché a été pris par l'Université du Minnesota à l'aide d'un microscope électronique ultra rapide capable d'enregistrer plus d'un million de milliards d'images à la seconde. Sur des captures vidéo extrêmement ralenties, ils ont observé des ondes filant à plus de 6000 mètres par seconde, résultant des déplacements de chaleur au cœur de cristaux de germanium et de tungstène. Des images très précieuses pour comprendre la matière à l'échelle de l'atome et élaborer une électronique plus efficace et moins consommatrice d'énergie pour le futur. Une maladie du cerveau de bovidé proche de la vache folle vient d'être découverte chez le renne de Norvège, connu en Amérique du Nord depuis quelques années chez le cerf et le wapiti. La CWD, ou maladie débilitante chronique, vient donc d'être détectée pour la première fois en Norvège chez un renne sauvage, semblable au prion. Cette infection inquiète les autorités norvégiennes car personne ne s'explique sa traversée de l'Atlantique et son transfert d'espèces. Connue aussi pour être contagieuse et difficile à endiguer, elle est actuellement étudiée par une collaboration américaine et norvégienne. Et puis pour terminer, une vidéo impressionnante postée par la NASA, de magnifiques aurores boréales et australes filmées depuis la Station Spatiale Internationale. Des images tournées à 400 km d'altitude qui permettent une vue d'ensemble du phénomène. Les atomes neutres de la haute atmosphère viennent rencontrer les protons ainsi que les électrons du champ magnétique de la Terre, plus intense au niveau des pôles. Le résultat, eh bien, ce sont de magnifiques volutes vertes et rouges, visibles en haute définition sur la page Facebook de la Tête au Carré, tant qu'à faire. Allez, dossier hormones dans un instant.
On était beau, c'était hier, bercé par les hélicoptères, un peu de sable dans tes cheveux, d'azur s'embrasse parmi les feux, plus rien n'est nécessaire sur nos terres, le ciel rempli d'hélicoptères, au printemps rien d'amer et creux, quand on se prenait pour des dieux. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de
Minou avec Hélicoptère à l'instant.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
Comment nos hormones nous influencent ? Donc aujourd'hui, le dossier de la tête au carré. Mes invités pour en parler, Elisabeth Marchal. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine La Vie, avec lequel nous sommes partenaires pour ce numéro, qui sera demain dans les kiosques. Attention, absolument, ne le cherchez pas trop tôt. À vos côtés, Olivier Bossler. Vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche en neurobiologie et neurophysiologie. C'est un laboratoire CNRS Université Aix-Marseille. Et puis Bernard Sablonnière, vous êtes neurobiologiste et professeur de biochimie à la faculté de médecine de Lille. Et vous venez de publier, entre autres, Les nouveaux territoires du cerveau, aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous parlez un petit peu des hormones. Les questions des auditeurs nous arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Est-ce que d'abord vous pourriez nous dire à quoi ressemblent les hormones et quel est leur rôle dans le vivant? Parce qu'on semble bien les connaître et pourtant il faut préciser les choses, Olivier Bossler.
Alors écoutez, nos hormones, elles sont de différentes sortes. Des hormones, ça peut être des petites protéines ou des protéines plus grandes. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des stéroïdes, c'est-à-dire des hormones qui se diluent dans les graisses, qui sont capables de traverser les membranes. Mm-hmm. Donc ça, ce sont deux types d'hormones. Ensuite, ça peut être aussi des amines ou des hormones qui sont issues de et qui proviennent dans la synthèse proviennent d'acides aminés, par exemple. Donc différentes catégories de substances chimiques qui constituent des hormones.
Ouais.
Et qui peuvent être donc synthétisés par des glandes endocrines, mais peut-être pas uniquement. Pas uniquement par des glandes endocrines.
Bernard Sablonnière, complément de définition, s'il vous plaît.
Ces
messagères chimiques, on peut dire les choses comme
oui,
ça.
Oui, tout
aussi,
à fait. Hein. C'est le mot que j'aime bien. On a plus de 200 hormones dans le corps, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elles sont capables de faire des choses incroyables. Par exemple, le cortisol nous réveille le matin, la mélatonine nous pousse à s'endormir le soir. L'adénosine, qui est un messager chimique, nous fait piquer du nez quelquefois quand on a une route un peu longue sur l'autoroute.
Ouais.
L'insuline, bien sûr, fait baisser le glucose, mais où il va le sucre ? Ben, il rentre dans les cellules, on le consomme, on le met en réserve. Et puis, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on découvre des hormones extraordinaires, comme la leptine, l'hormone minceur, qui régule notre poids.
Ouais. C'est-à-dire qu'on continue à en découvrir encore. Il n'y a pas une classification aujourd'hui totalement définie.
Je crois que l'un des plus beaux exemples que j'ai repéré récemment, c'est je ne sais pas si elle a déjà le titre d'hormone, mais en tout cas, messager chimique très clair, la fameuse irisine, hein, découverte très récemment, qui explique pourquoi on lit à la télé manger moins, bouger plus, ça fera du bien à son cerveau. Et c'est prouvé, l'irisine est libérée par le muscle et va réparer les connexions nerveuses dans le cerveau.
Olivier Bossler, donc liste non exhaustive dans cette classification.
Voilà, liste non exhaustive. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on s'aperçoit on s'est aperçu depuis longtemps d'ailleurs, que des neurotransmetteurs, qui ne sont pas a priori des hormones, c'est-à-dire des substances qui participent à la transmission du message nerveux, parfois peuvent jouer le rôle de véritables hormones. Donc on a parfois les mêmes substances qui jouent le rôle de d'hormones, donc on les appellera des neurohormones dans ces cas-là, lorsqu'elles sont synthétisées par notre système nerveux, et le rôle de neurotransmetteurs.
Ah oui, c'est compliqué quand même de les distinguer dans
alors
ces cas-là.
Alors voilà, la frontière est de plus en plus floue entre le concept d'hormone et de neurotransmetteur. Ouais.
Le plus bel exemple, je crois, c'est l'ocytocine, découverte dans les années 30 comme étant une hormone qui était responsable des contractions utérines au moment de l'accouchement, et puis découverte presque 50 ans plus tard dans le cerveau et qui régule l'affection, la bonne entente,
l'empathie,
hein, voilà.
On en parle souvent.
Et puis inversement, des neuromédiateurs comme la dopamine, qui était connue comme un neuromédiateur central, dont on a montré qu'elle pouvait constituer également une neurohormone qui va agir sur nos glandes, notamment sur notre hypophyse.
Pourquoi un dossier complet sur les hormones dans la vie, alors, Elisabeth Marchal? Parce qu'on voit la complexité quand même.
Absolument, tout à fait, et on en découvre tous les jours. Mais je crois que ce qui est intéressant à dire, c'est que les hormones, on les connaît surtout quand il y a des règlements. En fait, on parle des hormones, alors effectivement, on parle beaucoup du diabète, avec les problèmes d'insuline. On va parler aussi de l'hormone de croissance quand elle a des dérèglements. Mais ce qu'on découvre de plus en plus souvent, c'est que les hormones, c'est aussi des petits règlements quotidiens. C'est ce qui nous accompagne. En fait, c'est un petit peu ces messagères qui vont nous aider à nous transformer, à nous adapter tout au long de notre vie et tout au long de notre journée. Oui. Et ça devient très intéressant parce que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir un dérèglement d'hormones pour se pencher sur la question. Mais se dire qu'effectivement, suivre une vie, dès qu'on va avoir éprouvé le besoin de manger, de dormir, nos hormones sont en jeu, elles sont là et on peut les aider en ayant aussi une forme de régularité dans la vie. On parle aussi du stress qui va être très bon. L'hormone, finalement, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est là, on peut l'accompagner, on peut l'aider à faire son travail, en quelque sorte. Et c'est ça qu'on découvre de plus en plus et qui me semble tout à fait intéressant.
Oui. D'ailleurs, vous proposez 24 heures dans notre vie hormonale, finalement, Olivier Bosclair, parce que c'est ça aussi votre travail, c'est de travailler sur la chronobiologie, donc vraiment la façon dont ces hormones rythment nos jours et nos nuits.
Donc il faut que nos hormones soient là au bon moment.
C'est-à-dire
qu'il faut qu'à un moment donné, on ait une sécrétion accrue d'hormones, à un autre moment de la journée, qu'on ait une sécrétion plus faible. Tout cela a été régulé de manière extrêmement fine.
Ouais.
Et ce sont nos petites, nous avons donc des petites horloges, qui sont nos glandes endocrines, qui vont régler finalement ces mécanismes. Mais nous avons aussi une horloge centrale, qui est située dans une petite région de notre cerveau, qu'on appelle l'hypothalamus, qui, elle, va synchroniser cette espèce de symphonie hormonale.
Où se trouve l'hypothalamus, Bernard Salbonnière, dans notre cerveau?
À la base du cerveau, c'est une toute petite structure à la base du cerveau, grosso modo entre les deux yeux, là derrière le nez, qui a la taille d'un morceau de sucre.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire deux petites choses, et je parle sous le contrôle des chercheurs, qu'on parle souvent de la cascade hormonale, c'est-à-dire un petit peu cette succession d'équilibre qui va se faire dans le corps, du cerveau jusqu'au surrénal qui seront vers les reins. Et puis, on peut comparer aussi à une espèce de vous pouvez imaginer une grande usine où il faudrait que les tâches se fassent toutes bien dans l'ordre, que les choses se s'engrangent, que les horloges, les mécanismes se fassent, et les hormones sont là aussi pour veiller à ça, pour veiller à ce que chaque élément joue son rôle en quelque sorte pour que notre organisme s'adapte.
Toujours. Et tous les rôles d'ailleurs, Olivier Bosser, sont représentés, des rôles contradictoires parfois aussi, c'est même des hormones.
Tout à fait.
Et il y a tout et son contraire.
Voilà, tout à fait. Nos hormones interagissent entre elles, puis elles vont même informer notre cerveau de l'état de production des hormones, c'est-à-dire qu'il y a un retour vers le cerveau par les hormones qui va donc être essentiel pour la régulation justement des sécrétions hormonales.
On demande à quelle époque ces substances chimiques, Bernard Salbonnière, qui traversent l'organisme, ont été appelées ainsi, les hormones. Quand est-ce que ça a commencé?
Je pense que c'est début du XXe siècle, effectivement, dans les années 1903-1905.
C'est 1906, il me semble.
Hormonos, qui signifie excité.
Et on parle d'endocrinologue, ce spécialiste des hormones, que depuis un siècle, à peine. C'est relativement récent, en fait, ce métier est souvent mal connu.
Ouais. Écoutons la voix du biologiste Jean Rostand, c'était là pour le coup en 1952.
Il y avait des découvertes dans le champ des hormones, dans le champ des virus, dans le champ de la culture, des organes. Tenez là, les travaux les plus importants qu'on vient de faire tout récemment, c'est le travail de Étienne Wolff de Strasbourg. Il est arrivé à cultiver, c'est-à-dire à faire vivre in vitro les glandes sexuelles de l'oiseau. Il est arrivé à obtenir in vitro la différenciation sexuelle de ses glandes, et même il les a modifiées en les soumettant à certaines hormones, à certaines substances chimiques. Il y a là une très belle découverte qui est certainement ouvre de grandes perspectives à la biologie future.
Voilà, Olivier Bosclair, en 1952. On a fait beaucoup de découvertes depuis autour des hormones.
Ah oui, absolument. La liste déjà des hormones s'est considérablement allongée. Mm-hmm. Et puis on a aussi fait beaucoup de découvertes sur les mécanismes d'action de nos hormones. Découvert des récepteurs, c'est-à-dire les structures cellulaires qui vont reconnaître le messager hormonal et qui vont induire des cascades de réactions. Donc tout cela, évidemment, a fait d'énormes progrès.
Bernard Salbonnière, une question de Jacques. Est-ce que ce sont uniquement, demande-t-il, des glandes qui sécrètent les hormones?
Non, pas uniquement. Bien sûr, on connaît la glande surrénale qui est vraiment bien individualisée et, comme on dit, chez les médecins qui coiffent le rein comme un bonnet de chasseur alpin. Mais il y a des petits groupes de cellules qui produisent des hormones spécifiques dans le cerveau. On a des tout petits noyaux de cellules qui ont la taille d'un grain de blé et qui produisent des hormones comme la dopamine. Donc c'est très diversifié, c'est très complexe. Effectivement, ça s'est beaucoup complexifié depuis une trentaine d'années. Avant, on avait un certain nombre de glandes bien déterminées comme la thyroïde, le pancréas, etc. Et maintenant, on découvre des groupes de cellules qui produisent des hormones un peu particulières. Je sais pas si on parlera, comme par exemple l'anandamide, et qui sont répertoriées dans des structures très petites du cerveau.
Ouais. En quoi les particulières, justement, celle-là?
Parce que c'est l'une des hormones qui va stimuler les perceptions gustatives. Hein, c'est l'hormone qui est activée lors du baiser amoureux, et qui est aussi activée, lorsque...
Quand on mange un bon plat?
Lorsqu'on mange un bon plat.
Ah ben voilà. Tout à fait. Olivier Bosler, comment agit une hormone exactement dans l'organisme? Alors, parce qu'on parle d'une libération de l'hormone, hein, c'est ça?
Voilà, alors ça c'est la définition d'une hormone, c'est une substance qui est sécrétée dans le sang ou dans la lymphe. Ça c'est la définition originelle. Maintenant, cette définition c'est un petit peu étendue parce que, par exemple, dans notre cerveau, on a des substances qui ne sont pas libérées spécifiquement au niveau d'une synapse, c'est-à-dire au niveau de l'endroit, de l'interface très étroite qui correspond au transfert de l'information entre deux neurones, mais qui peuvent être libérées de manière diffuse pour aller agir à distance sur des cibles. Alors, c'est pas une libération dans le sang, c'est une libération dans l'espace intercellulaire, à distance des synapses, mais c'est une libération que l'on qualifie de type hormonal. Ouais.
Et pourquoi il y a cette distance, justement, entre lieu de libération et la cible, au fond,
Le système nerveux, qui est un système à action très rapide, va utiliser la synapse pour communiquer de manière extrêmement brève, extrêmement rapide. Mais lorsqu'on veut influencer des vastes ensembles neuronaux, il est nécessaire d'avoir des substances qui vont agir de manière diffuse et qui vont agir sur des récepteurs qui reconnaissent les hormones vont être à distance.
Mais ça, c'est fascinant, parce qu'il y a un transport exercé.
Du coup, il y a un transport, oui. Ouais. Mm-hmm. Alors, c'est là que la frontière entre la neurohormone et le neurotransmetteur est extrêmement floue.
C'est très bien de parler de ces transporteurs d'hormones. Notamment, il y a des transporteurs de la dopamine, il y a des transporteurs de la sérotonine dans le cerveau. Et chez les uns les autres, ces transporteurs ne fonctionnent pas de la même façon. Mm-hmm. Et ça peut expliquer des petites différences de comportement.
Comment ces hormones nous gouvernent? Eh bien, on va en savoir un petit peu plus dans un instant avec la suite de ce dossier. Bien sûr, vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et puis également sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque.
Hide your heart from sight, lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened to me. Church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be.
Mais qu'est-ce que c'est que ces engins?
Ça, les enfants, ce sont les hormones TSH. Elles viennent de l'hypophyse et vont à la glande thyroïde pour lui ordonner de fabriquer et expédier d'autres messagers dont la mission sera d'activer la production d'énergie.
Alors, cela, c'est quoi?
Eh bien, ce sont des hormones relais, en quelque sorte.
Ah bon, des hormones de relais, bien sûr.
Voilà, extrait de la série « Il était une fois la vie » pour illustrer les hormones. Donc notre dossier cet après-midi en partenariat avec nos confrères de la vie qui publient donc un dossier qui sortira demain dans les kiosques. Olivier Bosler et Bernard Sablonnier, vous êtes neurobiologistes, et Elisabeth Marchal, rédactrice en chef de La Vie. Alors il y a beaucoup de questions. Charles qui vous demande si l'humain se distingue justement des autres animaux par une possible capacité à contrôler davantage ses hormones, Bernard Sablonnier.
Je pense pas que l'humain puisse contrôler la production de ses hormones. Il est capable de contrôler ses comportements. Or, les comportements sont modulés par les hormones.
Donc, il y a quand même un petit contrôle indirect, non ?
Tout à fait, un contrôle indirect. Mais je pense que chez l'humain, le cerveau volontaire qui est dans le préfrontal joue un rôle important et peut, dans certaines circonstances, complètement inhiber certains réseaux de neurones qui s'activeraient subitement sous l'action d'une hormone.
Elisabeth Marchal.
Je dirais que le mot contrôler est trop fort, mais on peut écouter. Par exemple, il y a des hormones qui commandent la faim et des hormones qui commandent la satiété. Donc, par exemple, quand on sent, oui, à un moment donné, l'hormone vous dit en quelque sorte « halte, salé, là vous êtes repu ». Voilà, donc c'est peut-être être plus à l'écoute, de même pour le sommeil, au moment où l'hormone va déclencher, voilà, la mélatonine va rentrer en jeu, et on sait combien le sommeil peut être réparateur et très important, tout ce qui va se passer pendant notre sommeil. Là aussi, c'est important peut-être de réécouter ces rythmes-là. Donc, c'est, d'une certaine manière, on ne contrôle pas, mais on se met davantage à l'écoute de ces messagères formidables qui nous indiquent quel est le bon moment pour faire quoi.
Oui, c'est tout à fait vrai.
C'est notre message aujourd'hui, écoutez vos hormones.
Tout à fait. Bon, il y a un exemple, c'est l'insuline, par exemple. Ouais. Vous avez dans la journée, en milieu d'après-midi, un pic de sécrétion d'insuline par le pancréas qui va provoquer une hypoglycémie.
Oui, là, c'est même pas la peine d'écouter. De toute façon, ça se manifeste tout seul.
Mais pour justement diminuer ce pic, eh ben, il faut qu'on prenne un petit carré de chocolat ou un petit 4 heures. Et à ce moment-là, on...
D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe à 4 heures? Parce que dans ces 24 heures que vous présentez dans le dossier de la vie, là, justement, Olivier Bosler, on voit qu'à 16 heures, il se passe un truc particulier, hein, que c'est pas pour rien qu'on a envie de manger un petit morceau de chocolat, précisément.
Oui, parce que justement, notre pancréas va sécréter un peu plus d'insuline, qui est l'hormone donc hypoglycémiante. Et donc, notre organisme sera prêt justement pour assimiler des sucres. Et on va avoir un petit coup d'hypoglycémie. Hein, c'est la fameuse hypoglycémie qui va nous inciter à aller grignoter quelque chose de sucré.
D'où l'importance de respecter nos propres rythmes, Bernard Sablonnier, et de bien les connaître. On parle de l'importance du sommeil, c'est absolument prépondérant, évidemment, justement, dans le dérèglement des hormones. Mais c'est ça, au fond, aussi, maîtriser ces hormones.
On sait maintenant qu'il y a beaucoup d'études sur l'effet, en quelque sorte, de l'abus des tablettes électroniques ou choses de genre, qui, finalement, vont amener par leur écran beaucoup de lumière au fond de l'œil. Le cerveau n'est pas fou, il va se rendre compte qu'il y a encore la luminosité et pour lui, c'est pas le moment de s'endormir. Donc ça ralentit la sécrétion de mélatonine et le départ de la nuit réparatrice est retardé d'autant.
D'autant plus que les écrans, notamment les écrans LED, sont très riches en lumière bleue, qui est la lumière justement qui est particulièrement... qui est particulièrement importante dans les problèmes de rythme circadien. C'est-à-dire que c'est cette lumière bleue qui va nous empêcher finalement, qui va baisser la production de mélatonine.
Cette hormone qui devrait nous aider justement à l'endormissement et au bon sommeil. Et on le dit souvent dans cette émission.
Et de nouvelles recherches montrent même, je crois, que quand on fait beaucoup de nuits blanches d'affilée, même chez des jeunes, voilà, toute une semaine de nuits trop écourtées, en fait, biologiquement, on se retrouve un petit peu dans l'attitude d'une personne. Quelqu'un de 20 ans peut se retrouver dans l'attitude biologique de quelqu'un de 70 ans, voilà, quand il a trop manqué de sommeil qu'il n'a pas permis cette régénération.
Tout le monde vivant est régi par les hormones, justement, Olivier Bosler. Même les plantes aussi ont des hormones.
Oui, les plantes ont des hormones, ça c'est un petit peu moins connu, c'est connu quand même, mais oui, les plantes ont des hormones, ça favorise leur développement. Il y a notamment des hormones qui vont favoriser, qui vont les protéger contre les prédateurs, par exemple. Il y a toute une série d'hormones végétales qui sont connues. On parle des phytoestrogènes, par exemple. Voilà. Il y a toute une catégorie d'hormones qui sont des hormones végétales qu'on connaît bien, oui.
Marc nous dit ceci, si le cycle féminin est globalement plutôt connu par ses manifestations marquées, qu'en est-il de l'existence d'un cycle masculin, tiens? Bernard Sablonnière, alors ?
Non, il n'y a pas de cycle analogue chez l'homme. La production d'hormones sexuelles est tout à fait régulière entre la puberté, et elle diminue d'ailleurs très régulièrement après l'âge de 70 ans. Mmh. Donc il n'y a pas cette pulsatilité, cette régularité qu'on trouve chez la femme. Mmh.
Larry demande, les perturbateurs endocriniens, qu'en est-il ? Que sont-ils ? Sont-ils toujours des hormones, justement ?
Les perturbateurs endocriniens, non, ne sont pas toujours des hormones. Ce sont justement des substances qui soit vont imiter les hormones, ouais. Soit vont contrecarrer l'action des hormones, soit vont perturber le métabolisme et l'action des hormones, oui.
Je crois qu'on a à peu près, on évalue aujourd'hui, je crois, à 80 000 substances chimiques qui nous environneraient. Alors, heureusement, elles n'agissent pas toutes en même temps. Mais on fait beaucoup de recherches aujourd'hui sur la conjonction de ces substances entre elles. Donc, mm-hmm. quand vous prenez votre maison, votre salle de bain, votre cuisine, voilà, tout ce qui nous environne. Alors, certaines, on en a déjà beaucoup parlé. Hein, ouais. On a vu les effets du parabène. Mm-hmm. Alors, on est de plus en plus prudent par rapport à la composition des produits dont nous nous environnons, que ce soit les produits de beauté ou les produits pour le ménage, mais en même temps, on est loin de savoir exactement comment tout cela interagit et tout ce qu'on va pouvoir découvrir
avec
ces cocktails de substances.
Là, on est face à des problèmes de santé publique extrêmement importants, hein, Bernard Sablonnière, justement, sur ces perturbateurs endocriniens.
Oui, de plus, grâce aux études de l'épigénétique actuelle, hein, on sait que ces perturbateurs endocriniens non seulement peuvent mimer les hormones, mais agissent sur le génome sans changer le message, hein, c'est des modifications épigénétiques. Et ça amène énormément de recherches à l'heure actuelle pour essayer, bien sûr, de voir quels sont les gènes qui peuvent être modifiés, modulés par ces perturbateurs.
Mmh. Oui. Olivier et Bosler, aussi. Justement, sur la complexité de tous ces facteurs perturbants.
Ah oui, il peut y avoir aussi des hormones, par exemple, les hormones de synthèse, les œstrogènes de synthèse, ça peut être des perturbateurs endocriniens. Hein. Justement les traitements hormonaux, la pilule contraceptive qui utilise des œstrogènes de synthèse, bon, peuvent à la longue être des perturbateurs endocriniens et qui vont se retrouver finalement excrétés et puis perturber notre équilibre hormonal.
Peut-être on peut dire que l'hormone de synthèse, parfois, elle nous a sauvé la vie aussi. Hein, heureusement qu'elle existe. Bien sûr, hein, bien par sûr. Exemple, on peut penser dans le cas du diabète. Elle nous sauve la vie, elle apporte aussi du confort hein, dans la vie des femmes, la contraception, etc. Et en même temps, elle est beaucoup moins souple. Nos hormones, elles s'adaptent en permanence à ce qui se passe, à l'environnement, à notre évolution de vie, à notre étape de vie, à nos humeurs, on l'a dit, à nos émotions. Or, évidemment, l'hormone de synthèse n'a pas la même souplesse. Donc, c'est vrai que ça oblige à considérer, quand vous prenez une hormone de synthèse tout au long de votre vie, il y a peut-être des moments où il faut se demander, est-ce qu'elle est toujours bien adaptée à mon cas ? Et c'est ce que disent, on interviewe entre autres dans le dossier une gynécologue qui invite justement les femmes à regarder de près à quel moment finalement peut-être il faut changer par exemple de contraception ou changer, voilà. Donc c'est important d'être vigilant parce que les hormones de synthèse n'auront pas cette même faculté d'adaptation naturelle, si j'ose dire, à l'environnement et à notre état interne et à notre étape de vie.
Oui, justement, dans le dysfonctionnement qui est lié aux hormones, Bernard Sablonnière, est-ce que c'est au fond toujours une question de dosage ? C'est-à-dire, si on n'en a pas assez de ces substances ou au contraire beaucoup trop ?
Alors, les véritables déficits hormonaux sont rares. Je pense que dans la plupart des cas, c'est pour apporter un confort supplémentaire ou évidemment, chez la femme, lors de la ménopause, on peut être amené à donner des traitements hormonaux substitutifs pour corriger un certain nombre de défauts liés à la baisse des hormones. Mmh. Mais sinon, dans les autres cas, c'est essentiellement des effets thérapeutiques pour corriger telle ou telle perturbation liée... finalement à tout un tas de mécanismes qui dépassent strictement le taux réel de l'hormone que l'on peut doser.
Allez, on se retrouve dans un instant, dernière partie de ce dossier en partenariat avec La Vie et toujours vos messages sur le site de la Tête au Carré.
If you will.
When Doves Cry, c'était en 84 avec Prince.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Allez, dossier hormones avec la vie, Olivier Bosler, Bernard Sablonnière et Elisabeth Marchal sont derrière le micro pour répondre à tous vos messages. Alors, 24 heures chrono avec nos hormones, on le disait tout à l'heure, Elisabeth Marchal. Et tout commence avec le cortisol, c'est bien cela, hein, Olivier Bosler. À partir de 6 heures le matin, mais tout le monde est réglé de la même manière là-dessus.
Ah oui, le cortisol a un pic de sécrétion au moment du réveil. C'est-à-dire que nous nous réveillons dans une configuration optimale pour affronter les contraintes de la journée.
Donc entre 6 et 8 heures. Hein,
c'est entre 6 et 8 heures. Alors, il peut y avoir évidemment, il y a des variations inter-individuelles.
Mais c'est ça, oui.
Mais oui, mais c'est le matin au réveil, ça nous aide à nous réveiller.
Mais alors, quand on suit ces 24 heures, les choses sont assez précises, mais pour les personnes qui ont des horaires décalés, et très décalés, je pense évidemment au travers de nuit, comment ça se passe alors au niveau de la sécrétion de ces hormones?
Alors, ces hormones s'adaptent plus ou moins bien. Hein, il peut y avoir des problèmes justement qui sont liés à une mauvaise adaptation du cycle de ces hormones. Il faut que justement ces personnes qui travaillent la nuit, qui ont des horaires décalés, aient une hygiène de vie qui soit extrêmement stricte et de manière à favoriser justement le rétablissement de cycles.
C'est possible véritablement de rétablir malgré ces horaires qui vont contre la biologie, quand on le comprend bien.
C'est possible plus ou moins bien. Vous avez des hormones qui s'adaptent très bien, d'autres un peu moins. Le cortisol, on arrive à s'adapter. Mm-hmm. La mélatonine un petit peu moins, justement. Voilà, donc ça c'est des soucis. Et on s'aperçoit justement qu'il peut y avoir ensuite des pathologies qui sont liés
au travail de nuit, aux horaires décalés. Elisabeth Marchal.
Et je crois que ça évolue un petit peu avec l'âge aussi. Je crois que on se réveille, ce pic du réveil peut se faire un peu plus tôt au fur et à mesure qu'on avance en âge. Voilà. Donc ne pas s'inquiéter si on se réveille plus tôt.
Tout à fait. Le cortisol, il y a un petit décalage de 3 heures en moyenne, mm-hmm, chez les personnes âgées. Oui.
Et entre 10h et 13h, au travail, par exemple, on est à plein régime grâce au cortisol aussi.
Oui, ben notre cortisol va décroître tout au long de la journée, hein, pour finalement arriver à des taux assez bas au moment, mmh, où nous commençons notre nuit. Hein, donc ça va décroître doucement. Ensuite, il va y avoir des pics de cortisol qui vont être en relation avec notre alimentation aussi. C'est-à-dire que lorsque l'on va manger, à ce moment-là, on va avoir un petit pic de cortisol, hein, qui va se superposer à l'aspect rythmique endogène, je dirais.
Oui, d'où l'intérêt de fournir l'effort intellectuel le plus important, l'activité la plus importante le matin, quand on est là, le stress est bon et on peut l'activer. Voilà, c'est peut-être pas après 20h qu'il faut activer son stress.
Et puis, 19h, le sas après le travail et la pause d'ocytocine, une hormone qui intéresse beaucoup Michel Boujna.
Par exemple, les femmes, toutes les femmes, elles ont une hormone qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Toutes les femmes, elles l'ont, même les folles. Tout le monde. L'ocytocine, mesdames, ça se déclenche dans deux situations. Quand vous faites la chose, avec les mots, sans les mots, vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis, quand vous mettez les enfants au monde, ça se déclenche l'ocytocine. Nous, les hommes, on a l'ocytocine, c'est sûr. Mais ils ne savent pas quand ça se déclenche.
Il y a vraiment autant de mystères autour de l'ocytocine masculin, Bernard Sablonnière?
Non, on sait que l'ocytocine est libérée dans les deux sexes. C'est vrai que dans le cerveau, il y a un peu plus de récepteurs de l'ocytocine dans le cerveau féminin.
Oui.
Probablement à cause de l'évolution des gènes, on sait que l'ocytocine facilite l'attachement, réduit le stress entre les deux partenaires, et on peut penser que il y a 200 ou 300 000 ans, la femme, en libérant davantage d'ocytocine dans le cerveau, savait retenir son homme à la maison pour qu'il puisse ramener tout ce qu'il faut pour nourrir les petits.
Oui. Comment nos hormones, justement, modifient le fonctionnement du cerveau? Alors, parce qu'il y a un lien avec la plasticité cérébrale aussi, hein?
Absolument, et ça c'est une découverte assez remarquable dans le mécanisme d'action au niveau des neurones, c'est la capacité de certaines hormones à faire surprendre, à faire apparaître des nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse.
Oui.
Donc ça a été découvert par un chercheur...
Le fait qu'on crée des neurones en permanence.
Voilà, on crée des nouveaux neurones, un chercheur étonnant qui s'appelait Fernando Nottebohm et qui s'intéressait au chant des canaris mâles au printemps.
Ah oui, tiens.
Et il s'est aperçu en 1980 que... Le canari mâle a son centre vocal, bon, l'équivalent du centre de la parole chez l'homme, qui d'un seul coup va tripler de volume dans son cerveau sous l'effet de la testostérone qui est fortement libérée. Il y a un très gros pic au printemps, alors que dans le cerveau féminin, il ne se passe pas de telle chose. Alors depuis, bien sûr, d'autres hormones sexuelles peuvent agir sur la fabrication de nouvelles synapses et de nouveaux neurones. C'est le cas des œstrogènes, c'est le cas bien sûr de la testostérone et à un moindre degré également de la progestérone.
Elisabeth Marchal.
Oui, alors l'ocytocine qu'on appelle la fameuse hormone de l'amour, hein, mais c'est peut-être un peu réducteur. Alors c'est vrai, je suis d'accord, Michel Boujna disait deux situations. Une troisième, l'allaitement aussi qui déclenche cette hormone.
C'est vrai.
Voilà, et déclenche effectivement l'attachement avec l'enfant. Mais finalement aujourd'hui, il y a des recherches suédoises qui découvrent que c'est aussi toutes les interactions harmonieuses. Voilà, il n'y a pas que l'amour, vous n'êtes pas obligé seulement de tomber amoureux, mais toutes les interactions harmonieuses que vous pouvez avoir avec d'autres, les moments...
L'amitié, les interactions sociales.
L'amitié, les interactions sociales.
Absolument.
Et ça, c'est très intéressant.
Il y a de plus
en
plus d'études là-dessus.
Voilà, c'est très intéressant de découvrir ça. Donc, quand on dit 19h, l'heure de l'ocytocine, c'est aussi l'heure de se détendre.
De l'apéro avec les copains.
De l'apéro avec les copains, voilà.
De favoriser
les interactions sociales et qui sont bonnes pour nous, pour notre organisme.
Voilà, et pour avoir un beau pic d'ocytocine. Il paraît qu'il y a des sprays de cytocine qui existe pour ceux qui manquent d'attachement, justement. Mais c'est vrai, on utilise vraiment ça?
Oui, effectivement, il y a des sprays d'ocytocine.
Et ça fonctionne, alors?
Ben, écoutez, je ne sais pas, ça fonctionne. Moi, personnellement, je n'en ai jamais utilisé.
Ça commence à être étudié.
Il paraît qu'on en met sur la langue et que tout d'un coup, voilà, on est plus dans l'empathie. On est plus sujet à...
Il y a des études de neuropsychologie qui ont montré que ça augmentait la confiance en l'autre.
Voilà. Mais je voudrais compléter ce que disait Bernard Sablonnière tout à l'heure sur la plasticité. Parce qu'effectivement, il a raison de souligner le fait que les stéroïdes sexuels, les hormones sexuelles sont très importantes au niveau de la régulation de la neurogénèse. Mmh. Et même indépendamment de la neurogénèse, on sait par exemple que les œstrogènes sont capables d'aller produire des nouvelles synapses dans une région qu'on appelle l'hippocampe, hein, qui est une région qui est très importante pour la mémorisation. Et donc, on voit très bien que nos capacités de mémorisation ou d'apprentissage peuvent être régulées par nos hormones stéroïdes, aussi bien les hormones sexuelles d'ailleurs que des hormones type glucocorticoïdes, c'est-à-dire dont le principal représentant est le cortisol chez l'homme. Et là, on sait qu'il y a des régulations qui se font de cette plasticité, d'ailleurs qui se font dans un sens positif ou non, parce que lorsqu'on a un excès de cortisol, par exemple, en situation de stress, on sait que c'est une situation qui n'est pas favorable justement à l'apprentissage et à la mémorisation.
Ouais. On peut faire baisser très vite justement ces taux hormonaux.
On peut les faire baisser assez vite. Le cortisol, en situation de stress, il va monter immédiatement. Mm-hmm. Sa sécrétion va monter immédiatement. Quant aux stéroïdes, aux œstrogènes, bon, on sait par exemple que chez la femme, on a un cycle donc de production de ces œstrogènes qui va suivre le cycle sexuel. Mm-hmm. Et à ce moment-là, bon, on s'aperçoit que lorsqu'on a des taux importants d'œstrogènes juste avant l'ovulation, en fait, la période d'ovulation, on est dans une situation où on a beaucoup plus d'épines dendritiques, qu'on appelle des épines dendritiques, qui vont recevoir des synapses qui se forment au niveau de l'hippocampe. Et ça, c'est assez extraordinaire, c'est assez spectaculaire, oui.
Des questions des auditrices. Jacqueline, par exemple, demande quelles sont les incidences et effets secondaires de l'hormonothérapie utilisée pour combattre le cancer du sein hormonodépendant. Est-ce que l'un d'entre vous a un élément de réponse à donner à Jacqueline? Allez, Bernard Sablonnière, lancez-vous.
Les effets secondaires, c'est en fait, dans ces cas particuliers, des hormones qui sont rarement des hormones naturelles, hein, puisqu'on peut utiliser la progestérone naturelle dans certains traitements hormonosubstitutifs de la ménopause. Mais là, c'est souvent des hormones de synthèse, et comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir bien sûr des effets secondaires, des modifications cutanées, des modifications sur les os, des modifications sur l'humeur, etc. Mais c'est des circonstances thérapeutiques telles où le traitement hormonal doit avoir pour but, éventuellement, s'il cible bien une cellule tumorale, de tuer la cellule tumorale. Donc les effets secondaires passent après.
Rodolphe demande, est-ce qu'un traitement contre l'hypothyroïdie peut influencer d'autres systèmes hormonaux que celui justement de la thyroïde? Qui veut répondre? Bernard Sablonnier à nouveau? Non. Traitement Olivier Bosler.
Par des hormones.
Je dois réfléchir en même temps.
Oui. Vous êtes, on peut peut-être dire ce que c'est que l'hypothyroïdie.
Oui, préciser peut-être.
Alors l'hypothyroïdie, c'est donc un fonctionnement anormal à la baisse de la thyroïde qui va produire moins d'hormones thyroïdiennes. Mmh. Et à ce moment-là, le traitement substitutif, c'est d'amener des hormones thyroïdiennes, donc pour remplacer les hormones manquantes. Alors, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur d'autres types d'hormones? Je n'ai pas de données, moi, particulières qui pourraient...
Elisabeth Marchand,
permettre d'argumenter ça. On parle de plus en plus, enfin, on identifie de plus en plus... La thyroïde, c'est un peu notre chaudière, notre thermostat.
C'est ce que vous dites, voilà, hein, comparé comme ça.
Donc, en fait, il peut être en surchauffe ou il peut être en sous-travail, en quelque sorte. Et en fait, de plus en plus, on s'interroge en se demandant si, effectivement, et entre autres, les personnes qui travaillent sur la médecine intégrative, par exemple, mm-hmm. se demandent si la thyroïde n'a pas encore... Enfin, tout ce qu'on peut faire avec la thyroïde, toutes les implications que la thyroïde peut avoir sur le reste de l'organisme n'est pas plus important qu'on ne le pense. Mais on est aussi encore en état de recherche et de... Voilà.
Cela dit, dans le cas de l'hypothyroïdie, on rajoute des hormones qui sont des hormones naturelles. Donc on va compenser le manque d'hormones thyroïdiennes par des hormones naturelles qu'on va rajouter. Donc les effets, disons, secondaires, a priori, sont...
Et puis on peut se faire aider des plantes. Hein. Il faut penser aussi qu'aujourd'hui, on a aussi des traitements naturels voilà, qui peuvent aider aussi au fonctionnement
Bernard
de nos Sablonnière, hormones.
Pour terminer sur cette question.
Oui, les hormones thyroïdiennes agissent sur des récepteurs qui étaient inconnus il y a une trentaine d'années, qui sont distribués dans différents types de cellules et qui, effectivement, régulent plutôt la balance énergétique. Donc il peut y avoir, bien sûr, des effets secondaires ou des interactions avec d'autres hormones.
Nos comportements, nos états d'âme, nos amours, tout ça, c'est uniquement une question d'hormones ou pas? Parce que c'est l'impression qu'on a au sortir de cette émission, mais c'est un petit peu caricatural quand même, d'accord. Hein,
c'est très caricatural. Moi, je dirais qu'au niveau du cerveau, vous avez un accélérateur qui est le glutamate, et vous avez le frein qui est le GABA. Et puis, un peu comme sur les voitures modernes, vous avez des régulateurs de vitesse ou des limitateurs de vitesse, et ça, c'est l'effet d'un certain nombre d'hormones, dont les hormones sexuelles, dont aussi l'hormone de la motivation, la dopamine, ou l'hormone qui va un peu calmer nos ardeurs, qui est la sérotonine.
Donc tout ça est une mécanique très fine,
c'est
très précise.
C'est une mécanique très fine et c'est évidemment pas... On ne peut pas réduire ça en disant une hormone fait tel effet et l'autre...
Mais c'est quand même une clé de la santé.
Et on peut le découvrir à partir de demain dans les kiosques avec La Vie ou sur lavie.fr.
Absolument, sur le site, on peut commander le numéro.
Voilà, santé, ces hormones qui nous gouvernent, stress, puberté, appétit, croissance, sommeil, plaisir, longévité et j'en passe. Et puis ce livre, Bernard Sablonnière, Les nouveaux territoires du cerveau chez Odile Jacob. Merci à tous les trois.